Ah, mes très chers et mes respectés, les gros chefs, les gros calacas de la grande, grande, grande association de labor OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel, association dont le président fondateur Papa Guy, il faisait de quoi beau, mais ça, il n'a pas qu'à colo, ou toi, quand l'homme de Kibosi va salabalim, va talabalim, mon gars, bio, oui, bio, c'est mes salutations les meilleures, mes salutations cordiales, mes vives salutations, mes salutations plus distinguées, mes salutations fraternelles, mes papas, mes mamans, mes jeunes de vie enfants du monde entier. Que l'Éternel nous bénisse tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 17 mars 2018. Il est 19h02, heure de Paris. Nous allons continuer notre thème de la fois dernière. Thème relatif à... au rameau et à la Pâque. Mais avant tout, nous allons demander à notre Dieu et Père au plus haut des cieux de nous orienter, de nous diriger, de nous canaliser, de nous soutenir tout au long de cette prédication par son Esprit. Que l'Éternel tout sa face vers nous, nous accorde la paix du corps, de l'âme et de l'Esprit, la rémission de nos péchés et la vie éternelle par le Christ notre Seigneur et Sauveur. Prions. Nakombo yamasiya emila la kisaka mi beko na yonkolo ni mi beko ya opéage. Zombie tata, zombie moana, tindera biso e limona yonkolo, to sepeli, Cristo a sequi, yombi mobikisi, yombi mobikisi, tatanzambe, totondi obotondi poete, namokolo elelo, tatanzambe, opesibi songuya, opesibi songolu, opesibiso mako ki manso po ete toyaka. Ko tiama bolongo na biso liboso na yo tatanzambe. Po na ko senga bolimbisi ya masumu na biso tatanzambe. Tala bet me sumu ka mingi na nzonzolo na ntalulu. Na nsalulu tata. Bika tinge lembo ki da beto tatanzambe. Bika tinge basisa beto na lufwa tatanzambe. Bet me kangama bubye na lufwa. Sam na luvunu tatanzambe. Samuti tatanzambi, betme sima ve mitieno, tatanzambi. Betme sala kaka ina ya beto mosi. Itungolo tata, nous persévérons, nous nous entêtons, oh Dieu, dans le mensonge. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile. Et nous ne prenons toujours pas conscience, oh Dieu, tellement que le mal nous a envahis, le mal nous a emprisonnés. Nous voyons le mal comme le bien, et le bien comme le mal. Quelle situation digne de pitié. Oh mon Dieu, la vérité est devant nous, mais nous ne la voyons pas. Nous préférons le mensonge avec toutes ses conséquences. Père trois fois saint, nous sommes, oh, affligés. Je suis affligé, oui, ô Dieu, je suis accablé. Ô mon Dieu, viens m'aider tous les jours les souffrances dans ma vie. Je suis accablé, Seigneur Jésus, viens m'aider tous les jours les plaintes dans ma vie. Tous les jours les soucis dans ma vie. Tous les jours, je suis rejeté. Tous les jours, je suis malmené. Ô Seigneur, on me traite de menteur. Je suis accablé, Seigneur Jésus. Viens m'aider. Oui, ceux qui disent la vérité sont calomniés. Et le peuple applaudit ceux qui mentent. Ceux qui complotent contre les autres. Oh, mon Dieu, le deuil est arrivé au milieu du peuple de Dieu. Nous sommes consternés, car tes pasteurs, tes membres confirmés, les présidents de section, de sous-section, les frères et sœurs, de l'usolo ont opté pour le mensonge. Oh, l'esprit d'égarement que tu as prophétisé par notre aîné, Papa Paul, être là au milieu du peuple de Dieu qui ne voit point, qui n'entend point les appels incessants de Dieu, qui appelle son peuple à renoncer au mal sur toutes ses formes. Le peuple s'entête de renoncer au monde, car on ne voit que rêverie, prostitution, oh mon Dieu, désobéissance, surtout au Dieu l'apostasie. Oh Père, toi fasse ça, sauve ton peuple. Oh Dieu, fais quelque chose, une grâce spéciale pour sauver tout ton peuple, car sans ton intervention, sans une grâce spéciale, nous serons perdus à jamais, car nous avons désobéi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Sauve-nous du sang versé. Sauve-nous, ô Dieu, de la punition, de la mort éternelle, ô Dieu. Ne permets point que nous puissions nous perdre, car tu nous as choisis comme ton peuple. Ô Dieu, pense à tes élus. Pense à tous ces hommes de bonne volonté, à ces hommes justes qui gardent tes préceptes et tes commandements, qui font ta fierté malgré la souffrance, malgré qu'ils soient exclus. Grâce à eux, ô Dieu, sauve ton peuple, éclaire ton peuple par le biais de toutes ces âmes bienfaitrices, toutes ces âmes fidèles à l'Éternel, les enfants d'Adam. Ô Dieu, notre Père, éclaire-nous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Alors, mes bien-aimés, la chanson que j'ai chantée au début de la prière, c'est une chanson qui dit, les paroles, j'ai traduit, Nzambe tata, Nzambe moana, Dieu le Père, Dieu le Fils, Tindelabiso et Limona, Yonkolo, envoie-nous ton esprit, Seigneur. Tos sepeli, nous sommes dans la joie. Christ a sécuit, Jésus est ressuscité. Yambi, morobi, ici, bienvenue le sauveur. Zambé tata, zambé moana, tindirabiso et limona, yon kolo. Tos sepeli, Christ a sécuit, yambi, morobi, ici. Dieu le Père, Dieu le Fils, envoie-nous ton esprit, nous sommes contents. Le Christ est ressuscité, bienvenue le sauveur. Nakombo yamasiya. Au nom du Messie, Émile Alakisaka, Émile nous enseigne. Mibe konayonkolo, tes commandements, à toi Seigneur. Ni mibe koya OPH, tes commandements sans les commandements de l'OPH. Au nom du Messie, c'est-à-dire au nom de Jésus, Émile nous enseigne tes commandements, n'est-ce pas? Et tes commandements sans les commandements de l'OPH. Nzambe tata, nzambe moana. Ben, c'est une chanson de la Pâque ici, vous voyez, hein? De la Pâque. Donc j'ai traduit cette chanson parce que cette chanson comporte ou véhicule, si vous voulez, un enseignement très important. Hein? Il s'agit de la résurrection du Seigneur, n'est-ce pas? Nous souhaitons la bienvenue au Seigneur ici. Vous voyez? Le Seigneur qui était parti, nous étions tristes parce que nous l'avons vu mourir sur la croix. Nous sommes dit, mais oh Seigneur! Dieu, pourquoi nous as-tu enlevé le Messie, notre Sauveur? Nous avons pleuré, mais 3 jours après, Dieu l'a fait revenir, il l'a ressuscité. C'est une grande joie pour nous, car le Christ a ressuscité, ne mourra plus. Et c'est prélude de la vie éternelle, n'est-ce pas? Comme le Christ ne mourra plus, et bien le peuple qui vient de lui aussi ne mourra plus. C'est une victoire sur la mort. Et la mort, c'est notre situation actuelle, n'est-ce pas? Et la vie éternelle, c'est notre situation d'après. Donc le Christ est venu pour nous sortir de cette situation-ci de mortel, pour nous emmener à la situation d'immortel. Vous voyez, la vie éternelle, c'est ça, c'est l'immortalité du corps, l'immortalité de l'âme. Mais nous sommes en train d'attendre ce que nous attendons, mes bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est l'immortalité du corps. Vous voyez, c'est la mort, la fin de la mort. Vous voyez, le foie c'est iquabo, le foie, la mort, ça suffit. C'est ce que nous attendons, cette situation-là. Mais le Christ nous a déjà, comment on appelle ça? Le Christ a déjà vaincu, a déjà gagné. Hein, vous voyez? Il nous a déjà fait sortir de l'ancien système pour nous emmener au nouveau système, nous a dit de la mort, il nous a sorti de la mort pour nous emmener à la vie. Vous voyez? Ah, ici. Donc, on a relié tout ça, la mort et la vie éternelle, par un arbre particulier, en attendant l'arbre de vie. Bon, je répondrai aussi aux questions concernant l'arbre de vie, hein, à la fin. Vous voyez? Je vais d'abord terminer ce que j'avais à dire, vous voyez, concernant les rameaux et la Pâque, beaucoup plus les rameaux. Donc, le Christ nous a sortis donc de l'ancien système et nous a emmenés dans le nouveau système. L'ancien système, c'est la mort. Le nouveau système, c'est la vie éternelle. Voyez, hein? Et lorsqu'il y aura la vie éternelle, il y aura aussi la mort éternelle. Bon, la mort éternelle, c'est une situation que vivront ceux qui ont refusé le salut du Seigneur et sauveur Jésus le Christ. Voyez-vous que c'est très dangereux, hein? Voyez, les options que vous prenez, mes bien-aimés, hein? C'est fatal. Comment je peux définir ça? Et lorsque vous omettez, lorsque vous enlevez le nom du Christ, vous ne priez plus au nom du Christ, lorsque vous effacez ce nom, et bien vous prenez des risques très importants. C'est-à-dire que vous jouez sur votre futur, votre avenir, c'est-à-dire la vie éternelle. Parce que c'est lui, le Christ, la vie éternelle. Il faut que les frères et sœurs comprennent ça, hein, les frères et sœurs de l'Uzolo, parce qu'ils ont l'air de prendre ça, ne pas prendre ça au sérieux. Ils croient que c'est la blague, hein. Lorsqu'on leur dit « Ne priez pas au nom de Guy Émile, le foissé de Coabon », ils croient qu'on est contre le maître ou qu'on n'a rien compris. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement les commandements. Je viens de chanter ici une chanson qui nous dit « Émile la kisaka mi beko nayon kolo ». Donc Émile nous apprend, la mission d'Émile, c'est de nous apprendre tes commandements, Seigneur. Donc il nous apprend les commandements. Le premier commandement, c'est quoi? Mais tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. C'est qui un autre Dieu? C'est celui qui n'est pas le Christ. Bon, c'est quand même simple. Même si vous prenez Émile, vous mettez là. Même si Émile est le petit capitaine, le fait de le prendre et de le mettre à la place de celui qui est Dieu, c'est une faute grave, c'est une désobéissance. C'est tellement subtil. C'est-à-dire, je ne sais pas, réfléchissez, asseyez-vous un peu, et puis voyez cette affaire-là. Oui? Regardez comment est-ce que le diable a contourné l'affaire et vous a présenté l'affaire comme étant une bonne chose. Oh, c'est anodin. Voilà. Oh, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Le fait de changer un commandement, même d'un iota, hein. Vous voyez, changer un truc, c'est une faute grave. Voyez-vous. Ne plus prier au nom de Jésus est une faute grave, même si vous priez au nom de Guy-Émile. Mais sachez-le que vous avez... Qu'est-ce que vous avez fait du commandement? On vous a dit, on vous donne le commandement. Vous devez le garder, le respecter. Et surtout, mais le pratiquer, le commandement. Hein? Faut pratiquer. Mais lorsque vous enlevez une lettre, ou lorsque vous changez quelque chose du commandement que l'Éternel vous a donné, ça devient un péché. Ça devient une désobéissance. Et ça, directement, automatiquement, vous sortez. Mais du cadre. Vous sortez de la maison de l'Éternel. Vous demeurez dans la maison de l'Éternel que tant que vous gardez le commandement, vous obéissez et vous le pratiquez. Vous êtes dans la maison de l'Éternel. Mais si vous commencez juste, vous voyez, c'est ça, frères et sœurs, c'est ce qu'on ne cesse de vous dire. Mais vous croyez qu'on est contre vous, hein? À chaque fois qu'on vous le dit. Ne priez pas au nom de Dieu mille fois. Vous croyez que nous sommes plus des mille, nous. Vous croyez que nous ne sommes pas des mille. Non, nous sommes des mille. Nous sommes de Guy-Émile à le foire. Nous sommes ses enfants. Mais attention, c'est strict lui-même. Il dit que je suis venu pour vous enseigner les commandements de l'Éternel. Il dit, moi-même j'obéis à ces commandements. Je ne peux pas faillir. Donc si moi qui suis à la tête... de l'association, je faillis, ben, ça ne sert à rien. Hein? Ça ne sert à rien. Je ne dois pas faillir pour que eh ben, ceux qui me suivent, mes enfants aussi, ne faillissent pas. Donc c'est mon devoir en tant que président fondateur, en tant que grand maître de l'OPH, mais d'obéir, moi d'abord. Je dois être l'exemple, je dois obéir à ses commandements. Donc je suis moi aussi sous la loi, enfin la loi, les commandements de l'Éternel. Donc je ne peux pas faillir, je ne peux pas désobéir. Donc lui-même, il respecte ses commandements. Et sa mission, c'est faire que nous puissions respecter. Sinon, ce n'est plus la mission. Sinon, ce n'est plus Guy-Émile. Vous ne le connaissez pas, sinon. Papa est strict avec les commandements de Dieu. Mais ça, c'est, il ne badine pas avec ça. Voilà pourquoi nous qui le connaissons, notre Père, mais nous ne pouvons pas accepter, hein, que les gens puissent dire que voilà, aujourd'hui, il faut prier au nom de Guy-Émile. Non. Parce que le faire, c'est désobéir. Je répète plusieurs fois. Le faire, c'est désobéir au commandement. Si vous le faites, c'est que Guy-Émile a failli au commandement. Est-ce que vous voyez? Retournez un peu l'affaire. Asseyez-vous et réfléchissez. Et bien, vous allez vous rendre compte que c'est une erreur. Le faire, c'est quoi? Prier au nom de Guy-Émile, c'est le considérer comme Dieu. C'est le mettre à la place de Dieu. Voyez-vous, mes bien-aimés? Alors que c'est pas ça. Lui, il dit que Dieu m'a confié la mission. Donc, il y a un Dieu qui est là. Qui a confié la mission à qui? Mais Guy-Émile. Donc, il peut pas être Dieu, déjà, là. Hein? Quand même, c'est simple, mes bien-aimés. Je sais pas. Cet esprit, je sais pas. Hein? Dieu m'a confié la mission de conduire son peuple. Mais on peut pas conduire un peuple sans les commandements. Il y a des commandements pour conduire un peuple. Donc lui, il est le premier à les respecter. Il doit nous les montrer. Et il a résumé ses commandements, mais en un seul, il dit, c'est l'amour sincère du prochain. Celui qui aime ne peut pas désobéir. Celui qui aime, voilà, ne peut pas détourner la mission. Dans l'amour, il y a d'abord l'amour de Dieu. On aime Dieu et on aime son prochain. Et on résume les 10 commandements. Donc, il est là. L'association Le Zolo Amour, c'est même ça. L'association, nous sommes dans, au sein de l'association Le Zolo Amour pour respecter les 10 commandements. C'est pour ça qu'on nous appelle amour. Amour, ça englobe les 10. Donc, il y a les commandements qui sont là. Déjà, vous vous dites, membre et membre confirmé de l'OPH. Membre de Le Zolo. Le Zolo, c'est amour. Mais comment est-ce que vous pouvez vous dire, les lusolifiés, lorsque vous désobéissez aux commandements qui fondent, les commandements qui sont l'ossature, la base, la fondation, le fondement de l'usola. Mais bien aimé, je ne sais pas, hein, si vous me comprenez. Mais c'est quand même dommage, quoi. Les frères et sœurs n'arrivent pas à comprendre ça. C'est simple. Lorsque vous priez au nom de Dieu mille fois, c'est quoi? Vous désobéissez au commandement. Et lorsque vous désobéissez au commandement, il n'y a plus d'amour. C'est que ce n'est plus une association. Ce n'est plus l'usolo. Ce n'est plus Asla OPH. C'est fini. Parce que l'Asla OPH est assis sur les 10 commandements. Écoutez bien. Je répète encore. Asla OPH est assise sur les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements qu'on résume. Mais en un seul mot, amour. Celui qui aime, aime d'abord Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas avoir un autre Dieu devant sa face. C'est déjà un. Ça, c'est aimer Dieu pleinement. Et dans cet amour, il y a la crainte de l'Éternel. Vous ne pouvez pas aimer si vous ne connaissez pas Dieu qui est amour. Amour, c'est le nom de Dieu. C'est Dieu par excellence. Donc, vous ne pouvez pas aimer si vous ne connaissez pas Dieu. Alors, si vous confondez Dieu à Papa Guy-Émile, fois c'est trois beaux, mais c'est que vous n'aimez pas. C'est clair, c'est tellement clair. Je ne sais pas pourquoi vous persistez, pourquoi vous restez, soi-disant vous êtes des lusolifiés, 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 alors que vous ne l'êtes pas spirituellement. C'est ça, mes bien-aimés, la différence. Il y a des frères et sœurs lusolifiés spirituellement, parce que je vais parler de ça tout à l'heure, qui sont spirituels, c'est des spirituels, parce que lusolo est spirituel. Imaginez-vous que lusolo, dans lusolo, il y a les papas Abraham, il y a les papas Moïse. Il y a tout ce mandat. Mais lisez leur vie. Lisez la Bible pour comprendre ces hommes-là, comment est-ce qu'ils ont vécu. Pour qu'ils puissent être les lusolifiés. Je vous dis en réalité, en vérité, lusolo est spirituel. Dans lusolo, il y a des grands chefs. Hein? Il y a des patriarches, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Le Christ est dedans. C'est son corps. Vous imaginez, le Zolo. Mais c'est pas ce qu'on voit là, hein. Les gens en marinière, là, les dimanches, là, qui racontent je ne sais pas quoi, qui font des témoignages je ne sais pas quoi, là. Non! Il faut que les frères et sœurs sortent de ça, qu'ils comprennent, vous voyez, que le Zolo est spirituel. Et que le Zolo est assise sur les 10 commandements de Dieu. C'est la maison de Dieu, quand même, bon sang. C'est la maison de l'Éternel. Donc on ne peut pas badiner, on ne peut pas jouer, on ne peut pas jouer avec les commandements de Dieu. Vous voyez? Et renverser les lettres, intervertir, je ne sais pas moi, faire des bricolages. On ne peut pas, la loi elle est là. Elle est comme ça, on nous parle du dernier jugement. Mais on nous jugera par rapport aux commandements de Dieu. Comment vous allez vous présenter devant le jugement, le grand jugement, en vous comportant ainsi? Voyez-vous que c'est très difficile. Ce qu'on vous dit, c'est au nom de Jésus, point. Et lui, Émile, il tient à ça. Et c'est sur ça que l'asla est basé. Il est basé sur... Mais sur Jésus. On dit que l'asla OPH est l'habit de l'OPH. L'OPH, c'est Jésus. Mais je ne comprends pas. Bon. Écoutez, cette affaire-là, ça commence à prendre des tournures. C'est inquiétant, hein. Je ne sais pas, mes frères et sœurs, quel pacte ils ont signé avec le diable pour qu'il persiste dans la fausseté. Bon, ça, c'est votre problème. Hein? Je rappelle cela pour attirer l'attention des frères et sœurs qui écoutent aujourd'hui et qui vont comprendre qu'ils sont dans l'erreur, n'est-ce pas? Et qui vont revenir sur le droit chemin. C'est à eux que je parle, que l'Esprit de l'Éternel les touche afin qu'ils comprennent cela. Que le Christ est central et qu'il est incontournable. Il est même ce qui est la loi. Les 10 commandements, c'est lui, c'est l'amour. Amour, c'est lui, l'ossature. Et lorsque vous désobéissez à un seul commandement, la Bible le dit, hein, des 10 parmi les 10, un seul, c'est fini. Combien à plus forte raison le premier commandement, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Les frères et sœurs n'ont pas compris. Ils croient qu'un autre Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est un autre Dieu. Oh là là, c'est pas possible. Mais renseignez-vous quand même. Je ne sais pas, vous arrivez dans une association qui est là, qui a des lois, des règlements, qui a une vie, une histoire. Mais renseignez-vous, quoi. Ne vous laissez pas tromper par les gens, quoi. Vous êtes là, Jésus, non, c'est un autre Dieu. C'est Guy Émile le Dieu, je ne sais pas. Mais renseignez-vous quand même, hein, pour comprendre que Jésus, Émile vous dit que Jésus est noir et africain. Donc, oh, je ne sais pas. Bon, bref, c'était qu'une parenthèse, encore une fois, pour lancer un appel. Vous voyez? Fraternel, voyez, un appel de vie aussi, vie éternelle, aux bien-aimés frères et sœurs qui aujourd'hui ont été entraînés dans le mensonge, n'est-ce pas, pour qu'ils comprennent. Donc le rameau et la Pâque que nous allons célébrer aujourd'hui, demain, mais ça concerne le Seigneur et Sauveur, donc c'est Jésus, c'est incontournable. Quel rameau allez-vous célébrer et Pâque sans Jésus quand même, hein? Non, mes bien-aimés, soyons sérieux quand même, hein, quelque part. Soyons sérieux, il faut restaurer le nom du Seigneur dans toutes choses, car c'est là notre victoire, c'est ça notre liberté. Il n'y a pas de libération, il n'y a pas de liberté sans Jésus, car il est le chemin, la vie et la vérité. Mes bien-aimés, il est la vie éternelle. Jésus est le prince de la vie. De la vie éternelle. Celui qui croit en lui, possède la victoire. Alors, hein, mais bien aimé quand même. Bon, bref, c'était une parenthèse, encore une fois. Donc, on a parlé de l'arbre ici. Le palmier, ici, qui est un symbole très important, n'est-ce pas? Qui relie notre situation d'avant avec notre situation d'après. Le palmier a existé, le vrai, hein? Le palmier dans toute sa splendeur, avec toutes ses propriétés, avec toutes ses vertus, etc., a existé pendant la vie d'Adam. C'est la première génération. Et lorsque Adam s'en est allé, le palmier aussi a perdu de tout ce qu'il avait à cause de la tristesse. Mais Dieu a promis à Adam que le jour où il reviendra à la quatrième génération, le palmier sera encore là, témoin. Mais cette fois-ci, trois palmiers. Donc à la naissance de quelqu'un, la quatrième génération, il y aura trois palmiers. Comme le palmier aussi était témoin de la mort d'Adam, le palmier sera aussi témoin de sa résurrection, de sa naissance. C'est pour ça que vous voyez ce symbole-là dans l'Apocalypse, dans les mains des ressuscités, la résurrection. Vous voyez les palmes. Ben, ça nous ramène au palmier, qui est un arbre très important. Hein? Et vous voyez aussi, à l'entrée triomphale du Christ, les palmes. Donc, c'est toute une histoire. Le commencement de l'histoire, c'est le rétablissement du royaume de Juda. Et ce rétablissement du royaume de Juda, c'est le Christ qui vient en personne lui-même. N'est-ce pas? Le restaurer. Donc il le restaure par sa mort et sa résurrection. Il se donne. Passi. C'est même le mot Pâque. Se donner. Passi. N'est-ce pas? Et Pessa. Passi, c'est la douleur, excusez-moi. Se donner, c'est Pessa. Et Passi, c'est la douleur. Vous voyez? Donc c'est lui-même qui se donne pour restaurer le royaume de David. Encore une fois, c'est le Christ qui restaure le royaume de David, mais par un sacrifice, par la souffrance donnée, Pessa et Passi. D'où vient le mot Pâque, Pessa et Passi. Vous voyez? Mais avant tout cela, il fallait d'abord que le Christ puisse montrer pourquoi il est venu sur la terre. Pourquoi il est descendu? Pourquoi vient-il restaurer ce royaume de David? En fait, derrière tout ça, il y a quoi? C'est ce que nous allons dire tout à l'heure. Vous voyez, c'est pour ça qu'il commence par le palmier. Vous voyez ici? Donc, il reprend la vie d'Adam, là où elle s'est arrêtée. N'est-ce pas? Et puis, après, vous voyez que ça se termine aussi. Dans l'Apocalypse, vous voyez, les ressuscités à voir les palmes, ici. Vous voyez? Donc, les palmes sont au début du ministère, au début de l'action, entrée triomphale à Jérusalem. Les palmes sont aussi à la fin. Allez, à la fin, c'est au moment où le royaume de Juda est là. Vous voyez? Et que les ressuscités sont là. Donc, à la fin aussi, les palmes. Donc, on voit les palmes au début de l'action et à la fin de l'action. Début de l'action, c'est le sacrifice suprême. Et ce sacrifice suprême nous permet d'accéder, permet au royaume de David d'être restauré, et nous permet à nous, mais d'accéder à ce royaume, de reprendre en main le royaume céleste que nous avons perdu au commencement. Ben, il s'agit de ça, le royaume de David. Je voulais en parler, mais je suis arrivé, n'est-ce pas? Donc le royaume de David, c'est le royaume, c'est le paradis perdu, c'est le royaume que nous avons perdu par le péché originel, tout simplement. C'est ça qu'on appelle le royaume de David. David étant ici, ce personnage, n'est-ce pas, qui est ce serviteur de Dieu. Hein, vous voyez, le maître ici le décrit dans sa chanson. Liboso zali mwana nzambe, bizalelina yonga na lingaka. Vous voyez, c'est ici, David, c'est ça, ce serviteur, qui est fils de Dieu, et qui, par son comportement, par sa façon de faire, qui est un serviteur fidèle, n'est-ce pas, à Dieu. C'est un serviteur fidèle à Dieu. C'est un fils de Dieu. Et c'est un roi. Vous voyez, un roi divin, comment on peut le dire? Enfin, un roi spécial, avec les attributs divins. C'est-à-dire que c'est une créature, certes, mais à qui Dieu a donné ses attributs. N'est-ce pas? Afin qu'il le représente pleinement sur la terre. C'est ça. Diawidi. Oui. Hein? Celui qui écoute Dieu. N'est-ce pas? Celui qui, son oreille n'écoute que Dieu. Et il fait la volonté de Dieu. Et c'est un roi divin, quoi qu'étant, c'est une personne, un homme sur la terre, mais qui est différent parce qu'il a des attributs divins. Ça dit qu'il y a quelque chose, il est oint par l'Éternel. Et c'est un roi sur la terre, mais c'est un mortel, si vous voulez. Hein? Puisque nous parlons de la situation actuelle, vous voyez, c'est un homme, une créature, mais qui est différent, parce qu'il est le serviteur fidèle de l'Éternel. C'est un adorateur, en esprit et en vérité de l'Éternel, celui qui fait sa volonté nuit et jour. Vous voyez, c'est celui qu'on appelle David. Vous voyez, la figure de David, l'histoire de David, ou lorsqu'on parle de David, ben on ne se limite pas seulement au roi David qui a existé, n'est-ce pas? Que nous connaissons dans la Bible. Lorsqu'on parle de David, c'est une fonction, c'est un titre. Vous voyez? Et ce titre, cette fonction, Dieu l'a donné d'abord à un homme. Vous voyez, j'ai l'impression, hein, lorsque nous, ceux qui se disent hommes de Dieu, hein? Moi, je ne suis qu'un pécheur indigne et rempli d'iniquité. J'essaye d'être homme de Dieu, n'est-ce pas? Je ne me vante pas. Mais j'essaye, n'est-ce pas? Et le peu que je connais, j'essaie de transmettre à mes amis, et le peu que je fais vis-à-vis de mon Dieu, comment je le sers, j'essaie de le montrer à mes amis, afin qu'ils fassent ce peu-là. Vous voyez? Mais il y a des gens qui se disent hommes de Dieu, n'est-ce pas? Qui se sont déclarés archibishops, Il y a des hommes qui se déclarent comme ça. Il y a des pasteurs, il y a des papes, hein? Il y a des, bon, voilà, hein, il y a des gros chefs sur cette terre. J'ai l'impression, quand ils parlent de la parole de Dieu, ils ne parlent pas de l'origine. C'est-à-dire, avant que nous ne soyons là, avant qu'il y ait l'humanité, toutes ces couleurs-là, les peuples de partout, là, mais il y a quand même quelqu'un qui a vécu avec Dieu, n'est-ce pas? Il y a quand même une personne qui a vécu avec Dieu pendant longtemps, quand même. On a l'impression que l'histoire du jardin d'Éden, c'est une histoire de 2 jours ou 3 ou 4 jours 5. Que ça s'est passé tellement vite qu'on peut l'oublier. Non. Vous voyez que l'histoire du jardin d'Éden, c'est un long processus, n'est-ce pas? Il s'est déroulé et il s'est passé beaucoup de jours quand même. Donc Adam a eu le temps de connaître le Créateur. Adam a eu le temps, de connaître les commandements. Adam a eu le temps d'apprendre de l'Éternel ce qu'il doit faire, ses devoirs. Adam a été formé par le Créateur. C'est ça qu'on ne dit pas. C'est quand même... Puis la parole de Dieu, ça devient difficile pour ceux qui l'écoutent. Donc on ne parle pas de celui qui a été formé par l'Éternel. Il n'y a qu'un seul homme sur cette terre qui a été formé par lui-même. C'est l'Éternel qui venait voir Adam en personne, oui ou non? Qui parlait avec lui, qui dialoguait avec lui tête à tête. Ta, 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 ta. Il y a une seule, il n'y en a pas deux. Une seule, depuis la création jusqu'à la fin. Depuis le commencement jusqu'à la fin, excusez-moi. Il n'y a qu'une seule. Et la Bible est claire dessus. C'est une seule que l'Éternel a choisie. Moi aussi, vous voyez, un. Et il voulait faire de ce un-là, mais une multitude. Donc il voulait inculquer, donner à ce premier-là, mais tout, afin que ce premier-là dispatche. Vous voyez, c'est ça, en fait. Donc, celui qui a régné, n'est-ce pas, en premier, comme au roi divin, c'est Adam. C'est lui qui a été établi seigneur de toute la terre, mais par l'Éternel. Le roi par excellence, celui qui marche selon Dieu, mais c'est Adam. C'est celui du commencement. Mais que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Quand on parle du royaume de David, c'est d'abord le royaume d'Adam. Parce que le David de la Bible n'est que le fils d'Adam. Ce n'est que le fils d'Adam. Vous voyez que tous ces royaumes-là se sont écroulés. Tous ces royaumes-là ont disparu. Pourquoi? Parce que le royaume central, parce que le noyau qui est Adam, n'était pas là. Ce ne sont que des... Comment on peut appeler ça? L'ombre du vrai royaume. Vous voyez que le vrai royaume est céleste. Le royaume de David est céleste. Le royaume de David est céleste. On voit Dieu étant le roi suprême, le roi des rois au-dessus. Mais Dieu a établi quelqu'un pour gérer son royaume sur la terre. Et ce quelqu'un-là, on a vu qu'il était mi-humain, mi-céleste. Il fallait qu'il soit à la fois homme et esprit. Donc, le côté spirituel, c'est Dieu qui lui donne. Donc, c'est les attributs divins dont je vous ai parlé. C'est un homme, certes, on peut l'appeler mortel, hein, comme vous voulez. Mais il a des attributs divins. C'est-à-dire qu'il peut être sur cette terre, travailler sur cette terre, et monter au ciel aussi, aller vivre aussi au ciel, faire aussi des choses au ciel. Donc il est il est céleste et il est terrestre, parce que ce sont des attributs divins que Dieu donne. Mais il les a donnés qu'à Adam. C'est qu'à Adam, mes bien-aimés, qu'il a donné ces attributs-là. Adam, le jardin d'Éden, était certes sur la terre, mais j'explique encore plusieurs fois, mais le jardin d'Éden était mi-céleste, mi-terrestre. C'est-à-dire que c'était le pseudo-ciel, si on peut appeler ça ainsi. Le jardin d'Éden était dans ce que vous pouvez appeler la terre spirituelle. Vous voyez, hein? Donc il y a la terre là, matérielle, sur laquelle nous sommes là. C'est cette terre-ci, vous voyez, hein? Mais il y a aussi une terre spirituelle qui n'est pas visible. Donc le jardin d'Éden était à cheval. Sinon, il était spirituel, le jardin d'Éden. C'est d'où Dieu venait en personne. Donc Dieu venait dans cette sphère, c'est une sphère, on peut appeler ça, mais spirituelle, qui n'est pas visible. Mais c'est aussi la terre, vous voyez que la terre, elle est grande. N'est-ce pas? Il y a la terre matérielle, il y a la terre spirituelle. Avant que la terre matérielle soit, c'est-à-dire, bon, je reviendrai, hein, parce que ça va être lourd. Comprenez ça, hein, mes bien-aimés. Il y a la terre spirituelle qui est invisible. Il y a la terre matérielle. Donc vous voyez d'abord que le royaume terrestre, c'est-à-dire le royaume de David, le royaume dont Adam est le chef, est d'abord spirituel. Oui, est spirituel. Donc ça commence dans le jardin d'Éden, si vous m'avez bien suivi jusque-là. Le royaume commence dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est perché plus haut. Le jardin d'Éden est en hauteur. Il est sur une colline. Il est en hauteur sur une montagne, le jardin d'Éden. Hein? Donc c'est en hauteur. Donc ça veut dire que le jardin d'Éden, c'est un domaine, comment on appelle ça? Privé. Hein? C'est un domaine privé de Dieu. Donc c'est un domaine qui est spirituel. C'est céleste. Hein, spirituel ou céleste? Céleste, oui. Le jardin d'Éden est céleste. C'est une partie du ciel que Dieu fait descendre sur la terre. Donc il reste céleste. Même étant sur la terre, le jardin d'Éden était céleste. C'était ça le plus beau cadeau. Oui, mes bien-aimés. Oui, ici. C'est quelque chose du ciel que Dieu fait descendre sur la terre. Donc c'était ça, c'était sur la montagne. Oui. Donc Adam devait tout apprendre avec l'Éternel à partir du jardin, et une fois qu'il a tout appris, une fois qu'il est bien, bien, bien calé, une fois qu'il a bien grandi et bien compris ce que l'Éternel veut de lui, il allait descendre maintenant sur la terre matérielle. Et là, il pouvait coloniser, il pouvait étendre, n'est-ce pas, les œuvres de l'Éternel sur une terre matérielle. C'est ça d'abord que vous devez comprendre. Hein? D'où je parlerai de l'arbre de vie. Donc c'est ça, quand on parle du royaume de David, c'est ça. C'est un royaume qui est céleste, bien sûr, mais sur la terre. Bon, c'est là où il y a la difficulté. C'est céleste, mais qui est sur la terre. Vous voyez ? Je reprends encore. C'est un royaume céleste, certes, mais qui est sur la terre. Donc, c'est un royaume qui doit venir du ciel et s'installer sur la terre. C'est là où il y a le grand mensonge et la grande manipulation. Et l'incompréhension aussi. Les gens ont l'impression de faire la différence entre le royaume des cieux et le royaume de David. Non, c'est pas la même chose. Et lorsqu'on parle de Nouvelle Jérusalem, ils croient que c'est une autre chose. Hein? Et lorsqu'on parle du paradis, etc. Ils ont trouvé des termes pour compliquer ce qui est très facile. Ce qui est très facile, c'est quoi? C'est un royaume. Lorsqu'on parle d'un royaume, on parle d'un roi, c'est-à-dire celui qui est à la tête. Oui ou non? Oui. C'est comme ici, on a des royaumes, non? Oui. Mais qu'est-ce que vous voyez dans les royaumes? On voit un roi, non? Oui. Et quand le roi n'est plus, c'est qui succède? Son fils. Oui. Donc il y a une famille, il y a une lignée, mais qui règne sur un peuple. Donc lorsqu'on parle du royaume, on voit une famille royale, n'est-ce pas? Et puis on voit quoi? Une nation avec un peuple. Mais c'est pareil. Lorsqu'on parle de royaume ici, on voit qui? On voit une famille. Mais la famille, c'est laquelle? Hein? Posez-vous la question, c'est laquelle? C'est qui est le père? Mais c'est Adam! Donc, et qui va succéder au trône d'Adam? Mais les enfants d'Adam! Ah, alors là, il faut être clair là. Les enfants d'Adam. Mais qui l'est et qui l'est pas? Ah! Je vous ai rappelé la parole de Dieu dans Genèse 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc il y a royaume et royaume. Il y a le royaume du serpent. Les royaumes du serpent, ce sont les royaumes qui dirigent la terre aujourd'hui. Et les royaumes de la femme. Bon, la femme, il y a un seul royaume. Hein? Bon, on va appeler ça les royaumes, divisés en 12 parties. Hein? 12. Ce sont les enfants d'Adam, dignes. Vous voyez que aujourd'hui, les enfants d'Adam sont piétinés, sont effacés, sont écrasés. Donc la terre est dirigée par les enfants du serpent. Bon, ça c'est clair, c'est un secret de Polichinelle. C'est pour ça que vous voyez toute cette pagaille. Vous voyez les guerres, vous voyez la misère, vous voyez toutes ces choses. Oui, c'est parce que c'est le serpent qui règne avec sa lignée. Donc le royaume qui règne actuellement, c'est le royaume des ténèbres. Oui. C'est le royaume des ténèbres qui dirige ce monde-ci. Mais le royaume de David, c'est le royaume des enfants d'Adam. Voyez-vous, le royaume de David n'est pas le royaume des ténèbres, mais le royaume de la lumière. Bon, je crois que je m'explique. Je suis assez clair, non, mes bien-aimés? Les royaumes qui dirigent le monde aujourd'hui, les présidents, les machins, les institutions que nous avons aujourd'hui, ce sont des institutions des ténèbres. Ce sont des choses des ténèbres. C'est-à-dire que c'est un modèle d'organisation, mais des mortels, hein? Des ténèbres. Mais le gouvernement qui vient, ce qu'on appelle le gouvernement céleste, c'est un gouvernement de la lumière. Donc c'est un autre système ici, mais qui vient de Dieu. Je répète, le système actuel sur lequel nous fonctionnons, avec lequel nous fonctionnons, c'est le système des ténèbres, c'est-à-dire qui viennent en bas. Oui, hein? Parce que le royaume de David que Dieu a fondé, mais c'est disloqué. Hein? Ça n'existe plus. Le royaume de David, c'était juste un avant-goût. C'était juste une ombre du vrai royaume, dans le pilier. Le pilier est Adam. Oui, réellement Adam. Le royaume d'Adam, c'est le royaume de lumière. C'est le royaume du jardin d'Éden. Ouais. C'est ce royaume-là, c'est ce règne-là d'Adam, dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? Et Adam, avant le péché originel, c'est ça qu'on appelle le royaume de David. Le royaume de David, c'est avant le péché originel, c'est le royaume de lumière. C'est le royaume qui vient directement du ciel, dont Dieu est le roi des rois, où Dieu est le Père suprême. Ça, c'est ce qu'on appelle le royaume de David. Et il a voulu que son royaume soit sur la terre et dirigé par quelqu'un qu'il établit. Donc il l'a établi dès le commencement. Quelqu'un, c'est Adam. Oui. Donc le roi David, par excellence, c'est Adam. David, c'est une fonction qui veut dire celui qui écouta et celui qui fait la volonté de Dieu. Liboso zalimo na nzambe bizale lina yonga na lingaka kasi pona masu munase. Voilà, c'est ici que le maître chante. Toi, tu étais mon fils, bizale lina yo, c'est-à-dire que j'aimais ta façon de te conduire parce que tu faisais ma volonté, tu faisais ma fierté. Mais à cause du péché originel, voilà. Yo koko kakate ko sale langa, mais tu n'arrives plus à me servir. Et là, c'est la réponse du maître là. Ah, donc il répond. Ah, nkolo nanga limbisa. Ah, Dieu, pardonne-moi. Nako salama kasim po na lingayo. Je ferai un effort. Kolinga nikoto saka. Alors, mes bien-aimés, j'en ai parlé plusieurs fois au début de la prédication. Kolinga, aimer, aimer Dieu. Aimer l'amour sincère du prochain. Nikoto saka, c'est respecter, obéir à tes commandements. Lélo lobi lobi kona lobi koseko. Il n'y a rien à faire. Lorsque je viens de vous dire que prier au nom de Guy-Émile, c'est désobéir au commandement. C'est Émile qui vous répond ici dans la chanson. Kolinga, aimer. Si vous vous dites lusolifié, si vous êtes de l'usolo, si vous dites que vous aimez, mais commencez par aimer qui? Oui, Dieu. On aime Dieu en faisant quoi? Mais en respectant. Kolinga ni koto saka. C'est-à-dire, mais c'est un devoir. C'est un état d'esprit, quoi. C'est une préoccupation. Mais koto saka, c'est respecter, obéir au commandement. Lélo lobi lobi kona lobi. Mais aujourd'hui, demain, éternellement. C'est un devoir d'Émile, il dit. C'est Émile qui dit, ah, nkolo nanga, ah, Seigneur, pardonne. Et oui, c'est la situation du péché originel. C'est là où on a perdu le royaume. Le royaume céleste, on l'a perdu, mais à cause du péché originel. Le vrai royaume de David, non, le vrai, le royaume de David originel, on l'a perdu à cause du péché originel. C'est tout. Et David, c'est qui le roi par excellence, David? Mais c'est Adam, mes bien-aimés. Ne vous trompez pas, c'est Adam. C'est le roi formé par l'Éternel. L'Éternel l'appelait mon enfant. Donc c'est un héritier de l'Éternel, direct, direct, sur la terre. Mais c'est Adam, l'héritier de l'Éternel. C'est Adam. C'est à lui qu'il confie le bâton, son bâton de commandement, à son héritier. Il dit, tiens, mais c'est ça le bâton royal, c'est ça, hein, commandement, c'est ça le bâton royal. Tu es établi pour régner de l'éternité en éternité. Mais c'est clair, mes bien-aimés. Que cherchez-vous encore? Qu'est-ce que vous ne comprenez? Point. Atala kwa kwemfu mwe, bimfu amakutwe, e mi matele biaka basa di die, fu mwe. Atala kwa kwemfu mwe, bimfu amakutwe. E mi lwa matele le ebu utika zebizon zakwe. Oh, Émile, il bégaye, il parle pas bien. Oh. Émile leur dit I, eux, ils transforment I par U. Non, quand même. Celui qui a le bâton de commandement, c'est le roi. C'est celui qui est établi. Roi, hein? Roi des choses de Dieu. Donc, le royaume de David, c'est le royaume d'Adam. Et il est un royaume céleste. Le royaume de David que nous attendons, c'est le royaume qui a existé avant le péché originel. Une fois, le royaume de David que nous attendons, c'est le royaume qui a existé avant le péché originel. Deux fois, le royaume de David que nous attendons, c'est le royaume qui a existé avant le péché originel. Dieu a voulu juste, lorsqu'il a réuni les 12 tribus d'Israël, il a voulu juste montrer à son peuple, n'est-ce pas, les choses à venir. C'est une ombre. Le royaume de David passé, ce n'est qu'une ombre de ce qui est à venir. Vous voyez, le royaume de David est rétabli vraiment lorsque Adam, le père, reviendra. Et là, on rétablit ce royaume que lorsque le concerné est là. Le concerné, c'est qui? Mais c'est celui qui est loin depuis le commencement. C'est Adam, hein? Qu'on ne vous trompe pas, c'est Adam. Et dans ce royaume de David, il n'y aura plus la mort. Donc c'est clair, celui qui est David, c'est celui qui portera le nom La mort, ça suffit. Bien, vous allez vous poser plein de questions. Mais oui, et le Christ, il est où? Le Christ est où dans tout ça? Mais le Christ, c'est ce Dieu-là qui est établi. C'est ce Dieu qui est établi Adam. Hein? Le Christ est le roi des rois. Donc, il est le roi céleste, mais qui confie. Vous voyez? Un département, c'est comme... oui, dans ce monde, non? Hein? La France, par exemple, c'est un grand royaume. On appelle ça république, mais c'est un royaume, vous voyez ici. Hein? Même si ces rois viennent des familles différentes, mais vous voyez, si vous cherchez bien, bon, vous trouverez que on veut plus ou moins conserver quelque chose. Voilà pourquoi on suscite, hein? Certes des personnes différentes, mais qui viennent d'un même coin, enfin d'un même... Bon, je rentre pas dans ces choses-là, hein, ces histoires qui sont pas importantes. Vous voyez, mais vous voyez que la France a des colonies, vous voyez, des départements, et il établit des chefs dans chaque département. Dieu, c'est pareil. Dieu, il n'y a pas que la terre, vous voyez. Dieu, il est Dieu, il est infini. Il y a beaucoup de choses que Dieu a créées. Il y a beaucoup d'autres mondes, hein, que Dieu a... Dans chaque monde, il a établi quelqu'un, n'est-ce pas? Une autorité pour le représenter. Et lui-même, il est au-dessus de toute autorité. Hein. Donc sur la terre, là, notre terre, il a établi quelqu'un. Et c'est à ce quelqu'un-là qu'il a remis le sceptre du commandement. Donc il a dit, c'est dans ta maison que naîtront les rois, que succéderont les rois. Le sceptre, c'est pour sa maison. C'est parce que c'est lui qui est établi en roi de l'éternité en éternité. Sur ses enfants, je rappelle encore que sur cette terre, nous ne sommes pas tous des enfants d'Adam. Et c'est ce que vous devez comprendre. Vous avez beau crier, vous voyez, c'est le comportement des frères et sœurs que vous voyez à l'Uzolo, un peu partout dans les églises, dans le monde. Vous voyez, ils ont des corps humains. Ce sont des frères et sœurs qui ont des corps humains comme toi et moi, hein, qui parlent. Parfois, vous êtes nés de la même famille, hein, de la même mère et même père. Hein. Mais il n'est pas d'Adam. Ça peut être votre frère, mais vous allez découvrir qu'il n'est pas enfant d'Adam. Vous voyez? Ça fait mal de le dire. Dans une famille, il y a peut-être, si vous êtes 10, il y a peut-être 2 seulement qui sont des enfants d'Adam. Parce que nous devons tous naître, eh ben, de la postérité du serpent et la postérité de la femme doivent naître, doivent exister sur la terre. C'est écrit. Donc ça, vous ne pouvez pas changer. Vous voyez, nous sommes mélangés. Il y a l'ivraie et la bonne herbe. Le blé est l'ivraie. Dans une famille aussi. Il y a des enfants qui vont écouter Dieu, qui vont faire la volonté de Dieu, mais il y en a qui ne vont pas le faire, qui ne vont pas l'écouter, qui vont s'entêter. Et c'est comme ça, et c'est là que vous saurez qu'ils ne sont pas des enfants d'Adam. Mais vous voyez, lorsque le règne d'Adam arrivera, eh ben, ce sont les enfants d'Adam qui prendront le contrôle de la terre. Et là, vous verrez la différence. Vous voyez? Vous verrez là, la différence. Donc, nous allons vers ce règne-là. Et le royaume de David. Bon, on en a parlé, mes bien-aimés, du royaume de David. Alors finalement, comme je disais, il y a une grande escroquerie quand même, n'est-ce pas? Bon, vous voyez, nous tous, nous avons certainement participé à cette grande escroquerie, parce que nous avons été enseignés, éduqués par nos religions respectives, n'est-ce pas? Nous avons subi l'influence de religions dans lesquelles nous venons, hein? Parce que, ben voilà, nous avons été éduqués, n'est-ce pas? Pour comprendre les choses telles que on nous les a apprises. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous remettons en cause toutes ces choses parce que nous sommes à l'ère des vérités divines de l'heure. C'est-à-dire que c'est Dieu qui révèle les choses cachées et qui nous montre ce qu'il va faire demain. Et il veut que nous puissions redresser, corriger, remettre les choses sur les rails, n'est-ce pas? Repositionner, rediriger les frères et sœurs vers le bon chemin, hein, vers la vie éternelle. Voyez, parce que nous nous sommes trempés. Bon, c'est une situation permise par Dieu, n'est-ce pas? Pour un certain temps, voyez. Mais à la fin, il a dit que la vérité sera rétablie. Donc, nous souffrons tous le fait de nous être égarés, hein, de s'être égarés, oui. Nous devons accepter aujourd'hui tout ça, mais moi-même, je me remets en cause et j'accepte, voyez, j'accepte ce que Dieu veut. Voyez, c'est son commandement, c'est son vouloir, c'est son désir, c'est ce qu'il veut. Et nous le disons, nous sommes que les instruments de l'Éternel pour dire et pour corriger. Bien, mes bien-aimés, ah. Vous voyez, hein, lorsqu'on parle de la Nouvelle Jérusalem, descendue des cieux, on nous parle de beaucoup de choses, vous voyez, le ciel, l'Église sera enlevée. Bon, nous les chrétiens, on a beaucoup cru, hein. On a beaucoup cru à ça, parce que le Seigneur est monté, il est allé au ciel, et que nous allons le suivre. Oui. Mais nous n'avons pas compris une chose, qui est la suivante. Lorsque le Seigneur est ressuscité là, les disciples étaient dispersés, il fallait qu'il les rassemble, voyez, parce qu'il est Dieu, voyez. Il a fait une table rase, il les a appelés, il les a rassemblés. Il leur a parlé des choses à venir, de la restauration de son royaume. Oui. Et on a compris, en lisant, on a déduit. Ah, c'est le royaume de David. Royaume de David. Donc David, c'est Jésus. C'est pas mal. Oui. Parce que David, par définition, c'est d'abord le roi suprême. Et sa descendance, comme les royaumes terrestres, vous voyez. Le père s'appelle Louis, par exemple, Louis I. Vous voyez que son fils sera Louis II, l'autre fils lui, c'est les Louis. Vous voyez, c'est comme le royaume de David. Il y a eu un David I, c'est Adam, après il y a eu des David. Et on est arrivé à David que nous connaissons tous. Mais s'il y a un David, n'est-ce pas, qui a existé, David, admettons 4, il y a un David 1 qui est Adam, n'est-ce pas? Donc Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va restaurer ce David 1. Mais Dieu, il est qui? Et c'est Jésus qui parle. C'est Dieu en personne, hein? C'est là-haut, c'est difficile. C'est Dieu fait chair. Donc il vient pour régler les affaires de qui? Ça, c'est la grande question. Mais de l'homme. L'homme, c'est qui? C'est qui l'homme? C'est Adam, hein? Donc il vient régler les affaires d'Adam, parce qu'Adam ne pouvait pas le faire. Il est tombé par le péché. Sauf que lui vient en personne le faire à sa place. Donc en le faisant, il le restaure, il le réhabilite. Et après, il lui confie les choses qu'il lui a confiées au commencement, c'est-à-dire son royaume. C'est le royaume de Dieu sur la terre. Je répète encore, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Il s'agit de ça. C'est pas un royaume comme les gens pensent, quoi. C'est quelque part dans une planète, je sais pas où. Non, dans une constellation quelconque, non. C'est le royaume de Dieu, mais sur la terre. Donc, vous n'allez pas chercher loin ce qui est sur la terre. C'est là la difficulté. Hein? Donc, vous voyez que un moment, ce royaume-là viendra s'installer sur la terre. Le message, c'est celui-là. C'est le Christ qui dit, quand les disciples disent, ça sera ainsi que tu restaureras le royaume de David. Et c'est là où il y a la difficulté. Hein? Restaure le royaume de David. Il restaurera. C'est vrai que le Christ, c'est le roi. Hein? Mais ça, c'est restreindre le Christ. Lorsqu'on le considère comme un homme, tout simple. Non, il est Dieu pleinement. Le royaume qu'il vient restaurer, certes, c'est son royaume, mais il l'a confié à un homme. Donc, c'est le royaume mais humain de l'homme. Homme, hein? Homme. C'est l'homme qui est le roi de ce royaume-là. Lui, il est le Dieu suprême. Il est le roi des rois. Le royaume de David, c'est un de ses royaumes, si vous voulez. Hein? Si vous voulez que je sois clair. Mais il est Dieu, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs. Mais il établit en ce qui concerne la terre un homme. Et comme cet homme là est tombé, voilà pourquoi lui-même il est venu pour réparer cela. Donc le royaume qu'il restaure de David, c'est le paradis perdu. C'est le royaume d'Adam. C'est tout. C'est ça la vérité. C'est le royaume d'Adam qu'il rétablit, avec Adam comme chef. Et donc, les enfants d'Adam vont succéder. Ce sera des David. Oui. Succéder. C'est-à-dire... Hein? C'est ça la parole. Hein? C'est tout simplement ça. Donc, il faut qu'Adam revienne sur la terre. Il faut qu'Adam soit à cheval sur la terre et au ciel. Il faut qu'il soit un être de cette stature-là, de ce gabarit-là. Il faut qu'il soit à la fois un humain et à la fois un homme. Enfin, quoi qu'étant humain, il a des attributs divins. C'est-à-dire qu'il a, il a quelque chose que Dieu lui donne, qui fait de lui une exception, afin qu'il soit à la fois sur la terre et au ciel, et qu'il peut partir avec son corps, là, hein, son corps physique, il peut monter, aller chez Dieu et revenir. Ça, c'est Adam qui a ces attributs-là. C'est ce qu'il avait dans le jardin d'Éden. Donc, il faut qu'on lui restaure ça. Parce que le royaume de David, quoi qu'étant un royaume qui va venir se poser sur la terre, mais il est céleste d'abord, il est le royaume de lumière, de la lumière. Je crois que je me fais comprendre, mes bien-aimés. Hein? Donc, quand on nous parle du royaume des cieux, quand on nous parle de tout ça, c'est sur la terre, mes bien-aimés. C'est sur la terre. Parce qu'on ignore ce côté invisible de la terre. Hein? Parce que nous-mêmes, vous voyez, nous sommes aussi des êtres de chair à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous avons une âme, nous avons un esprit. Vous voyez, nos esprits, nos âmes aussi voguent en un domaine où, mais ils s'expriment. Et ce domaine-là est invisible. Vous voyez, le corps matériel s'exprime dans ce domaine-ci matériel. Vous voyez, mais le corps qui est à l'intérieur s'exprime aussi dans un domaine qui est invisible. Parce qu'on ne voit pas l'âme, hein, on ne voit pas l'esprit. Mais pourtant, ils sont là. On ne les voit pas parce qu'ils sont dans un domaine qui est invisible. Hein? C'est compliqué, mes bien-aimés. Bon, si c'est compliqué, je vous demande pardon. Je voulais tout simplement que vous puissiez comprendre. Vous voyez, que le royaume de David est un royaume mi-terrestre, mi-céleste. Vous voyez, mi-terrestre, mi-céleste. Voilà. Voilà pourquoi Dieu a suscité deux tribus pour s'occuper de ces deux côtés, le côté céleste et le côté terrestre. On vous parle de Judas et de Lévi. Lévi, vous voyez, Lévi, c'est le côté céleste de l'affaire. Vous voyez, donc il y a un côté céleste de l'affaire. C'est là où vous avez les grands prêtres, les sacrificateurs, les etc. Vous voyez, tout ce monde-là qui officie dans le temple, il s'occupe du domaine céleste, du domaine invisible. Ça, c'est leur ressort. Et vous avez de ceux qui s'occupent du domaine physique. C'est des sons de Judas, par exemple. De la royauté, tout ce qui est physique. Vous voyez? Donc, Adam est à la fois grand prêtre, il est à la fois mystique et à la fois, voilà, il est les deux en même temps. Vous voyez? Donc, il gère ce qui est spirituel en haut et il gère aussi ce qui est en bas. Bon, en haut, il gère ce qui est dans le domaine spirituel, il gère aussi ce qui est dans le domaine terrestre, matériel. Et ce qui est invisible et ce qui est matériel sont sur la terre. Vous voyez ? Donc le royaume de Dieu sur la terre. Donc lorsque vous parlez de l'enlèvement, c'est que vous n'allez pas nulle part ailleurs. Puisque Dieu va descendre, c'est ça le message. Dieu doit descendre la quatrième génération sur la terre. Il doit venir se poser sur la terre, mais il sera dans le domaine invisible. Dans le domaine où voguent nos esprits et nos âmes. C'est là où il viendra se poser. Donc il viendra lui-même en personne se poser sur le domaine invisible de la terre. Mais c'est la terre. Et le royaume de Juda sera d'abord rétabli c'est du côté spirituel. C'est-à-dire, c'est d'abord le temple qui va être rebâti. On va restaurer le temple. On va restaurer les serviteurs du temple. On va restaurer tout. C'est-à-dire la royauté céleste sera restaurée d'abord. Après viendra la restauration de la royauté terrestre par un changement. Voyez ? Donc on commence par ce qui est spirituel. Donc sur la terre, Dieu va descendre. Il va rétablir le royaume de David, d'abord sur le plan invisible, c'est-à-dire le plan céleste, céleste, ciel. Bon, lorsqu'on parle de céleste, spirituel, je veux dire. Hein? Parce que Dieu a déjà quitté les cieux. Il est actuellement sur la terre, mais la terre invisible. Parce qu'il y a un côté de la terre qui est invisible. Donc, il est sur la terre ici. Ici, là, avec nous, n'est-ce pas? Il est là. Et dans ce domaine-là, là où il est, il est en train de restaurer le royaume de David spirituel. Donc le temple, le sanctuaire, tout. Et après, une fois qu'on a fini de restaurer le royaume de David spirituel, on va restaurer maintenant le royaume de David matériel, physique. Ça sera maintenant que, eh ben, Dieu va restaurer son royaume physique. Le royaume physique apparaîtra. Le royaume physique viendra. Donc il faut que Dieu puisse choisir un endroit où il viendra installer son royaume physique. Donc lorsqu'on vous parle du 20 mai 1992 à 20h que Dieu est descendu, c'est ça. Donc il descend d'abord pour restaurer quoi? Parce qu'il y a deux côtés. Vous voyez, le royaume de David est mi-céleste, mi-spirituel et mi-physique. Je reprends plusieurs fois. Vous voyez? Donc, il y a d'abord le côté spirituel. Donc, c'est ça que Dieu rétablit. Donc, il vient venir s'installer là, à l'endroit où il va s'installer, là, à l'endroit où il descend. C'est là où il rétablira sur le royaume matériel, physique. Donc, le royaume physique apparaîtra là. Donc, il faut un lieu pour que, vous êtes d'accord avec moi, hein, pour que le royaume physique, hein, matériel soit là. Mais il faut un endroit, il faut une terre. Donc Dieu choisira une terre à la fin où il va venir se poser. Et lorsqu'il va se poser sur cette terre-là, d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord restaurer le royaume de David spirituel. Donc il va établir un sacrificateur, un grand prêtre. Il va mettre quelqu'un dans son temple là-bas. Et il va réorganiser ce royaume, n'est-ce pas? Et dispatcher les postes à ceux qui nous ont précédés. Et une fois qu'il a fini, n'est-ce pas, de préparer le royaume de David spirituel, maintenant on va passer à l'étape suivante, qui est le royaume de David terrestre maintenant, physique. Et c'est là où ce royaume-là apparaîtra, voyez. Mais ce royaume n'est pas fait des mains d'hommes, malheureusement. C'est Dieu, n'est-ce pas? Vous voyez, hein? C'est Dieu lui-même qui donnera tout au moins le temple, hein, et le reste. Voilà, mes bien-aimés, ce que je voulais vous dire. Le message des rameaux, c'est ça. Voilà pourquoi le Christ y rentre triomphalement. D'abord, Jérusalem, qui est un symbole ici d'un pouvoir physique, vous voyez. Et personne ne pouvait mettre la main sur lui parce qu'il vient restaurer celui à qui on a donné toutes ces choses, Adam. Il est le Dieu qui a donné toutes ces choses à Adam. Alors voilà pourquoi il est rentré, personne ne pouvait mettre la main sur lui. Parce que c'était un pouvoir de pouvoir. Et la première des choses, quand il est rentré à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Le temple, voilà, je viens de vous expliquer. Il est allé au temple. Donc voilà la cible première, c'est le temple. Donc il faut remettre le droit. L'ordre, la discipline, tout, restaurer d'abord le temple. Voyez l'image, le temple. Et après, on se livre dans le corps physique, résurrection, paf, le corps physique est immortel. Et là, le roi est immortel. Là, le peuple est immortel. Et là, le royaume physique peut venir. Voyez, s'établir. Voilà, deux phases. Hein? C'est ça le message des rameaux et de la Pâque. Bien, mes bien-aimés, je vous ai parlé du royaume de David. C'était pour que mes frères et sœurs comprennent que nous sommes aujourd'hui à l'ère où Dieu en personne est descendu. Il est déjà là. Depuis le 20 mai 1992 à 20h, il est là sur la terre, là. La terre invisible. Nous ne le voyons pas, mais il est là pour restaurer le royaume de David. D'abord, un, spirituel. C'est le plus important, le temple. Voilà, le plus important. Une fois que le temple est fait, on a installé, il y a des prêtres, le grand prêtre est déjà là. Hein? Bon, vous vous dites que le grand prêtre, c'est Jésus. Oui, mais il a établi quelqu'un. Celui à qui il a donné son bâton de commandement, c'est le grand roi. Hein? Donc, c'est lui qui officie dans ce temple-là. Le prêtre, le grand prêtre. Hein? Le véritable pape noir, c'est lui qu'on cite dans les prophéties là, des gens. Hein? On parle d'un pape noir qui va venir. Mais oui, on dit que c'est un citoyen romain. Mais oui, bien sûr. Hein? Le Congo-Brazzaville n'est pas à une colonie romaine. Hein? Répondez-moi à la question. Le Congo-Brazzaville n'est pas une colonie romaine. Vous êtes en train de voir ça, non? Hein? C'est une colonie romaine. Ben alors, quoi? Alors, celui qu'on appelle véritablement papa, c'est-à-dire le vicaire, le représentant de Dieu, c'est celui-là qui est là, oui, à qui Dieu a remis le sceptre. Donc normalement, tout le monde devait se taire. Tous ces chefs religieux-là, ils devaient abdiquer. Ils devaient dire, ah, aujourd'hui, vraiment, Dieu en personne est là. On laisse tomber. Mais s'ils persistent dans leur ce qu'ils font, là, ils croient qu'on ne sait pas ce qu'ils font, hein? Ce qu'ils font à Kibossi, là, dans la région du Poule. Ils croient qu'on ne sait pas. Hein? Mais on sait. Tout va... Nous allons tous passer par le grand jugement. Et tout le monde saura le mal que vous faites. N'est-ce pas? À celui que Dieu a établi. Normalement, vous savez que Dieu a établi quelqu'un. Mais vous devez déposer les armes, quand même. Hein? Pourquoi vous restez encore... en train d'embrouiller le peuple de Dieu. Non, déposez les armes et dites la vérité. Que, ah, Dieu nous a installé quelqu'un, donc voilà. Hein? Prenez le courage et dites à tous les chrétiens que le royaume des cieux est déjà sur la terre. La nouvelle Jérusalem est déjà descendue. On n'a pas dit que tout le monde verra la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est faux, ça. C'est Jean qui a eu le privilège de voir cela descendre des cieux. Il a eu le privilège de qui? Mais d'une personne. Mais là encore, on ne le dit pas. Jean a eu le privilège que Adam devait avoir la quatrième génération. C'est ce qui est promis à Adam, la restauration de son royaume. Dieu dit, je vais restaurer ton royaume et je t'établirai comme étant le chef. Mais ton royaume, c'est moi qui vais le faire descendre. Je le ferai avec tes enfants qui t'ont suivi. On le fera partir de là où je serai et je le ferai descendre. Donc c'est Dieu qui construit à Adam un royaume. Il a dit, je te le donnerai à la fin. Je t'établirai comme chef de ce royaume. Et Adam, tu verras descendre la belle cité à la fin. Donc c'est Adam qu'on a promis toutes ces choses. Voilà pourquoi le Christ, il prend Jean ici qu'il aime, comme il a aimé le premier. Il lui montre ces choses. Donc c'est Jean qui a eu la chance de voir. Mais on n'a pas dit que tout le monde va voir ça. Qui a dit ça? Que tout le monde va voir la nouvelle Jérusalem descendue des cieux, de ses yeux? Non, ça c'est faux. C'est faux. C'est un privilège accordé à une seule personne, qui était Jean. À cause de l'amour de l'Éternel envers lui. Mais cet amour, c'est le même que l'Éternel a. Mais de son bien-aimé Adam. Donc c'est à Adam qu'on a, que ces choses-là se sont réalisées. Donc le 20 mai, là, la personne qui était là, qui assistait à la descente de la Nouvelle Jérusalem du Seigneur des cieux, le 20 mai, là, la personne qui était là, c'est celui-là, Adam. Hein? C'est tout. C'est lui qui devait voir descendre ce que Dieu lui a promis. Parce que la promesse s'est faite à lui. C'est Dieu qui lui promet. Donc, c'est Dieu en personne qui l'appelle. Émile, regarde. Ce que je t'avais promis, là, regarde. Oh, Seigneur, ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, je croyais que c'était la fin du monde. Or, Dieu est venu. Il est descendu. Il décrit là. Ta, ta, ta. Mais c'est à lui qu'on a fait cette promesse. Et c'est pour ça que Jean a vu cela, pour nous rappeler la promesse faite à notre Père. Que Dieu n'a pas oublié cette promesse et qu'il va la réaliser à la quatrième génération. Et donc, à la quatrième génération, c'est notre Père en personne qui voit ces choses descendre. Donc, on n'a pas dit que tout le monde va voir ça. On n'a pas dit à toi, pasteur, que tu verras la Nouvelle Jérusalem. Les soyez des cieux. Non. C'est un privilège accordé à Adam. Et c'est une exception que Jean a. Mais voilà que Jean est transporté. C'est l'esprit qui le prend pour l'emmener dans le domaine invisible de la terre. C'est au niveau de ce domaine-là que Jean voit ces choses. Toutes les guerres que vous voyez dans l'Apocalypse, tout ce qui est relaté dans l'Apocalypse, ça se passe dans le domaine invisible, parce que c'est Satan. Satan, ce n'est pas une entité visible, matérielle. Donc Satan viendra mener la guerre contre Dieu dans ce domaine invisible. C'est là où voguent nos esprits et nos âmes. Mais donc c'est ce domaine-là qu'il y a des guerres. C'est dans ce domaine-là que se passe l'Apocalypse. Donc on a l'impression que les gens inventent les choses. L'Apocalypse, ça devient la Russie qui va... Bon, ça c'est ce qu'on nous a appris. Mais nous devons comprendre aujourd'hui que l'Apocalypse se passe dans le domaine spirituel. Parce que c'est ça qui est important. Satan combat d'abord dans le domaine spirituel. Et vous voyez, quand son combat va échouer, il sera rejeté. Et vous le verrez apparaître maintenant dans le domaine physique. Bon, bref, hein. Voilà, mes bien-aimés, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Et nous parlerons de l'arbre de vie la prochaine fois. Veuillez m'excuser aujourd'hui parce que vous avez posé beaucoup de questions. Alors, tout ce que vous nous avez dit, que Adam se nourrissait de l'arbre de vie, tout ça, comment se fait-il que... voilà. Bon, mais écoutez, on accepte que la vérité soit rétablie, n'est-ce pas? Et moi aussi, je présente toutes mes excuses, n'est-ce pas? À tous les bien-aimés, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Parce qu'on a voulu être en harmonie avec la Bible. La Bible qui nous dit que ben, Adam et Ève pouvaient manger le fruit de la vie, n'est-ce pas? Et que Dieu ne leur avait pas autorisé le fruit de... l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que nous avons tous appris. Nous n'avons pas voulu bousculer les croyances de tout un chacun sur ce point-là. Et nous sommes comportés comme étant des fidèles, hein, qui interprètent, qui enseignent et qui rappellent la Bible. Vous voyez que nous sommes à la fin. Hein, il fallait dire la vérité. Vous voyez ? C'est vrai, hein ? Nous avons commis tous l'erreur, mais c'est une erreur qui est introduite depuis la nuit des temps. Hein? Et nous avons été éduqués dans cette fausseté, cette erreur. Donc, aujourd'hui, nous avons tous accepté. C'est Dieu qui demande que cela soit ainsi. Nous acceptons, voyez, et nous alignons sur la vérité de Dieu, ce qui sort de la bouche de papa. Papa, elle a dit que c'est en mangeant ce fruit de l'arbre de vie, que Adam et Ève ont commis le péché originel. Donc, c'est lui qui le dit, il l'a dit. Vous voyez, nous avons écouté, mais comme ce n'était pas encore le moment, hein, de pouvoir le dire, vous voyez, voilà pourquoi ben, nous avons essayé de l'adapter, hein, à la parole de Dieu. Bon, nous avons essayé de faire des prédications aussi sur l'arbre, tout ça pour que nous puissions être tous, nous puissions nous retrouver. Parce que c'est brutal quand même, hein? Je l'avoue. Hein? Mais moi aussi, je vous demande pardon, vous voyez, hein? Moi, Je ne suis pas orgueilleux et jamais je le serai. Je suis fidèle, je suis soumis. Quand on me dit fais ça, je le fais. Vous voyez? Donc, l'arbre de vie, c'était pas encore donné à l'homme pour en consommer les fruits, n'est-ce pas? Je crois que si vous m'avez bien suivi depuis le commencement, vous avez compris que Dieu, il était en train de former Adam. Donc Adam n'avait pas encore atteint la maturité. Vous voyez? Et Adam avait le commandement. Et pourtant, hein, Dieu n'a pas voulu stopper le diable, vous voyez? Satan, vous voyez? Mais il a seulement attiré l'attention d'Adam en lui disant, écoute, cet arbre-là, tu ne touches pas. C'est un commandement. Et je te mets à l'épreuve de l'obéissance jusqu'à ce que tu atteignes tel niveau. Si tu arrives ici, si tu obéis et que tu arrives jusqu'ici, je te dirai la suite. Et je te dirai ce qu'il faut faire. Mais je te mets à l'épreuve de l'obéissance. Le jour où tu désobéiras, voilà Satan qui rôde, qui est ton ennemi, qui est ton adversaire, qui te hait, il prendra le dessus sur toi. Et tu perdras tous les héritages que tu as. Donc c'est Dieu qui lui a parlé. Il en était conscient, Adam. Vous voyez? C'est Dieu ici. C'est Dieu qui dit à Adam. Il provient de l'influence négative, hein, du serpent. Bon, il faut que je vous parle petit à petit. Vous voyez, hein? Bon, là encore, vous allez accuser Dieu. Mais pourquoi Dieu? Il ne pouvait pas faire ça, c'est pourquoi pas Dieu? C'est Dieu, voilà. Hein, il a ses principes, ses lois. Il est en train de former quelqu'un. Quand vous prenez quelqu'un au boulot, par exemple, vous prenez un enfant, hein, vous le formez pour que cet enfant puisse faire pour qu'il puisse apprendre un boulot. Je crois que la première des choses, c'est que vous lui donnez des lois. Vous lui dites ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas. Tu dois venir à l'heure, au boulot, à 8 heures. Ta, ta, ta. Mais on ne va pas dire, mais pourquoi? Pourquoi? Non, c'est le chef. Il a établi les lois et puis il a dit à Adam, voilà, le jour où tu feras ça, tes ennemis qui rôdent autour, ils vont te renverser. Alors, quand tu seras renversé, tant pis pour toi, tu souffriras. Tu seras à la merci de tes ennemis et ils vont te piétiner. Donc, il est au courant, Adam. Voyez? Mais toi, montre-leur l'exemple, n'est-ce pas? Sois obéissant jusqu'au bout. Donc, il en était conscient. Mais seulement, mais voilà. Hein? C'est Ève. Donc, s'il y avait qu'Adam, Satan n'arriverait pas. Vous voyez? Et Satan est passé par Ève. Il a poussé Ève à aller droit à l'arbre là. Parce que l'arbre là, c'est quelque chose de très important, hein, tel que le maître le décrit, avec les deux autres branches, vous voyez, hein, on en parlera, qui s'entrecroisent. C'est très important, c'est tout un message qui est là. Donc on voit ce que Dieu veut faire de l'humanité après, vous voyez, puisque c'est lui qui vient redonner cet arbre à l'homme. Donc vous comprenez que derrière, il avait mis des garde-fous. Donc, il avait dit à l'homme, attention, cet arbre-là, tu ne touches pas encore, vous voyez? Stop. Le jour où tu en toucherais, tu vas souffrir. Parce que... Pourquoi il l'a mis dans le jardin, d'ailleurs, hein? Pourquoi cet arbre est là? C'est qu'il allait le léguer à l'homme. Mais ce n'était pas le moment. Parce que c'est tout un... il y a toute une histoire derrière, vous voyez, hein? Parce que le maître en parle, il dit les feuilles de toutes les couleurs, de toutes qualités, tout, tout, tout. C'est pour vous dire que c'est un être. Et il se déplaçait tout seul. Voyez-vous, c'est un grand pouvoir. Voyez, c'est un grand trésor. C'est une richesse des richesses. C'est tout. C'est des vertus. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est l'aliment, c'est tout. Voyez. Mais on ne donne une récompense comme ça, un cadeau comme ça, qu'à celui qui obéit. Et à celui qui arrive à maturité. Et, hein? Donc on comprend que Dieu allait donner cet arbre à Adam. Mais il était encore en formation. Donc Il était à l'épreuve de l'obéissance, jusqu'à ce que l'obéissance fasse partie de lui et qu'il soit un être soumis à l'Éternel. C'est ça, c'est par là, pour la soumission. Oui. Contre Satan et les autres qui étaient devenus désobéissants. Hein? Bien, je m'arrête là pour l'instant, mes bien-aimés. Et la prochaine fois, on va revenir sur le royaume de David. On va dire deux choses ou trois. Et puis après, on va commencer la Pâque. Vous voyez? Et ça sera nourri, accompagné par les messages du GEM. Hein? Les messages du GEM relatifs à la Pâque. Je vous remercie beaucoup. C'est toujours moi, votre homme, c'est vite pas basse, 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 C'est-il quoi, la voix et la bouche autorisées de l'organisation PH pendant les moments difficiles. On reconnaît les vrais amis pendant les moments difficiles. Si les babouets, ils n'ont jamais équipé, mais sur les minéraux, ils n'ont jamais équipé. Pour toi, l'homme équipe aussi. Le fils chiquilatif, le papa guillemé, il faut être quoi, le fils chiquilatif, le papa guillemé, il faut être quoi, portez-vous bien. À la prochaine fois, merci. Au revoir.